Je me présente Serge Durieux, je travaille à la direction de l'action territoriale à la ville de Grenoble. Et je suis. Alors la ville de Grenoble a sectorisé son territoire en 6 secteurs. Et je suis donc directeur d'un des 6 secteurs, le secteur 5 de la ville, qui est un secteur en QPV. Avec une particularité par rapport aux autres QPV, c'est qu'on a des zones, enfin donc le territoire, bien sûr, le QPV est dans son entier, mais il s'est étalé sur l'ensemble du secteur. Et avec des quartiers très différents, tels que le quartier Tesserre pour ceux qui le connaissent, le quartier Jouhaud et Abbaye, et le quartier à la fois Malherbe et Bajatière, qui sont des petits quartiers qui ont été rajoutés à la dernière nouvelle mouture des QPV, parce que justement, on avait à Malherbe sur la plage Fergulin et à la Bajatière sur la cité de la Bajatière quelques difficultés d'ordre social et tranquillité publique et de précarité. Et si je parle de la Bajatière, c'est qu'effectivement, je vais vous parler plus précisément de ce quartier. Donc, pour finir sur ma présentation, la mission de la TAT et notamment donc des directions de territoire, c'est d'être garant et d'accompagner le projet de territoire qui est défini par le maire adjoint, puisque dans le cadre de la sectorisation, la ville s'est aussi dotée d'un maire adjoint par secteur. Donc on accompagne le maire adjoint, et pour ça, on a une force de frappe qui sont les maisons des habitants, qui sont les ex-centres sociaux, qui sont agréés par la CAF, comme la collègue à Marseille, mais que maintenant, à la ville de Grenoble, on appelle des maisons des habitants. Et donc, dans chaque maison des habitants, on a une équipe. Dont des agents de développement sociaux qui nous aident à mettre en place des activités et du lien avec les habitants. Alors, l'expérience qu'on va essayer de vous relater, c'est en fait une expérience un peu basique hein, dans ce qu'on peut vivre et dans ce que j'ai entendu, qui est qu'à un moment donné, des habitants ont frappé à la porte, ont téléphoné, ont envoyé des mails, ont envoyé des courriers très longs aux maires et aux élus, et que du coup, voilà, ça nous retombe dessus, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, pourquoi ils n'étaient pas contents? C'est parce que ils étaient menacés par un point de deal qui, petit à petit, s'est installé sur l'espace public. Ce point de deal, il s'est installé là. Pourquoi? Et bien, tout simplement parce que dans notre secteur, ils ont été gênés par les forces de police qui se sont implantées d'une façon très forte et efficace sur le quartier Tesserre, et que du coup, il fallait trouver un autre lieu. Donc, en faisant une petite recherche de marché, un peu de voir où est-ce qu'ils pouvaient s'implanter, ils ont trouvé une petite rue, qui est tellement petite qui s'appelle un chemin du chapitre, et qui est en plus une rue qui amenait les gens, qui relie le quartier Tesserre au quartier Jouhaud et au quartier de l'Abbaye. Donc deux quartiers qui sont un peu, on va dire, entre guillemets, chauds. Donc ils se sont installés là pourquoi? Parce que c'est aussi donc une petite rue. C'était une rue qui était bordée d'un côté par des petites villas et puis quelques copropriétés, et de l'autre côté par une cité de logements sociaux dont parlera tout à l'heure Chaouki, et un grand parc qui avait un autre aspect intéressant pour eux, c'est que finalement ce parc, il était bordé d'un côté par ce petit chemin et de l'autre côté par une avenue, qui est un grand axe de la ville de Grenoble, hein, qui mène du centre-ville au quartier sud et à la Villeneuve, l'avenue Jean Perrot, pour ceux qui connaissent, et qui du coup faisait en sorte que ce parc n'était absolument pas visible de l'avenue Jean Perrot. C'est-à-dire que pas mal, y compris, enfin peut-être pas des riverains, mais des gens qui allaient de la Villeneuve en centre-ville sans forcément connaître le quartier de la Bajatière, connaissaient ce parc Soulages, qui est en fait un parc qui était le jardin d'une ancienne villa bourgeoise qui existe encore et qui est une maison de l'enfance. Donc, les jeunes s'installent. On a une forte demande de « mais que fait la police? Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut que ça bouge, on peut pas continuer comme ça, etc. etc. » Donc, à un moment donné, les services, hein, là aussi ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas que la DAT, mais c'est tous les services de la ville qui ont essayé de se dire « il faut qu'on y réponde, et comment? » Et donc, à l'époque, donc c'était dans l'ancien mandat, c'était en 2000, donc les événements ont commencé 2015-2016, et ont été vraiment très, très virulents à partir du début 2017. Donc en juillet 2017, l'élu de l'époque à la tranquillité publique a dit, bon allez, il faut qu'on fasse quelque chose, réunion, et on fait une réunion en mairie, dans la salle du conseil municipal, pour aussi dire aux gens, bah voyez, vous n'êtes pas des laissés pour compte, à un moment donné, on veut prendre en compte ce que vous nous dites. 35 personnes présentes, habitants, plus le panel des services, la police, bien sûr, nationale. Et on définit un plan d'action. Voilà, donc on nous donne un plan d'action, puis après, il faut qu'on puisse voir comment on va l'aborder. Donc, on a décidé de l'aborder avec les habitants. Donc, suite à cette réunion qui était en juillet 2017, on a fait des temps de travail Non, en juin, pardon. On a fait un premier temps de travail de digestion en juillet 2017 avec les habitants. On s'est donné rendez-vous à l'automne 2017 pour travailler sous forme d'atelier et pour dire que pouvons-nous faire? Parce que bien évidemment, dans ces questions-là, c'est pas nous qui allons discuter avec les jeunes pour leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent le deal, et c'est pas nous qui allons dire aux habitants de le faire. Hein. En règle générale, ce qu'on leur conseille, c'est plutôt de ne pas le faire. Donc, au total, soit on dit on n'y peut rien, c'est comme ça, et puis rentrez chez vous, soit on dit que pouvons-nous faire, sachant qu'en tout cas, on ne pourra pas malheureusement régler le vrai problème. On est d'accord, mais comment on peut améliorer la chose, faire que vous revivez bien dans votre chemin, dans votre rue, etc. Donc, on a fait des ateliers. Ces ateliers, on les voulait très pratiques. On avait travaillé sur certaines propositions qu'ils avaient émises et on avait fait des groupes avec des techniciens qui essayaient de voir sur les propositions, la faisabilité des propositions. Par exemple, bloquer la rue en mettant une barrière, bloquer la rue en mettant des plots qui s'ouvrent et qui se ferment, etc. Donc à chaque fois, les techniciens disaient, voilà le coût de la barrière, voilà le coût du plot, voilà en plus la pérennité, parce que quand on pose des plots, bien souvent, en un mois, il faut en remettre un, et puis quand on en a remis 4 ou 5, on nous dit, stop, parce qu'on n'a plus d'argent. Donc, c'était un peu ces petites questions-là qu'on a essayé de travailler. Et au final, alors, petit bémol dans ces réunions, c'est qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, et Chaouki pourra justement en parler après, c'est qu'en fait, la rue, le chemin dont je parle, en fait, il y avait d'un côté donc le parc et la cité, les logements sociaux. La petite cité, il y a combien de logements?
160 logements.
Hein?
160.
Voilà, donc une petite, il y a quand même 160 logements qui étaient sur un côté de la rue. Et de l'autre côté, copro, petite maison. Et les gens qui étaient participants à la fois à la réunion publique en mairie et à la fois dans les ateliers, dans les réunions publiques, c'était uniquement et essentiellement les gens des copro. Avec un argument qui était un peu. Enfin, avec deux arguments. Hein. L'argument que tout le monde entendait qui était de la tranquillité publique, de pouvoir rentrer chez soi en étant tranquille et pas se faire insulter ou ne pas entendre du bruit jusqu'à point d'heure de la nuit. C'est la première chose. Et un autre élément qui était quand même important et qui était très fort pour eux, c'est que nos logements, ils se dévalorisent financièrement. Et que si un jour on veut partir, eh ben, ce n'est pas en ayant ça devant chez nous qu'on pourra vendre correctement notre logement. Qui est un peu un lien, hein, si je suis mal et que j'ai une grosse tête, je vais déménager. Ouais, mais là, je m'aperçois que du coup, je vais perdre beaucoup d'argent. Donc, il y avait ces deux éléments-là qui étaient quand même importants. Ceci dit, une fois qu'on a fait ces ateliers, on a quand même pris un engagement en disant, OK, donc. Ce qui a paru le plus simple, c'était de dire cette rue, qui était une rue de switch important. Hein, les gens qui venaient du nord pour aller au sud de Grenoble l'apprenaient. Pour ceux qui connaissent, Chemin du Chapitre, c'était une rue de délestage, il n'y avait pas de feu, etc. C'était bien pratique. Donc, on ferme la rue, on la met en impasse, on la ferme au milieu, on fait une expérimentation, tout le monde dit OK, de 6 mois. Et. L'élu, notamment, s'engage au bout de 6 mois à revenir vers les habitants pour voir si, quelle décision on prenait, c'est-à-dire si on maintenait la fermeture ou si on faisait autrement. Et l'élu, à l'époque, nous a demandé, juste avant de faire la réunion qui s'est située en janvier 2018, donc un an et demi après la première réunion, de nous dire, vous faites quand même un petit sondage avant auprès de tous les riverains, pour savoir déjà quel écho. Parce que le truc, c'est que si en réunion publique, on n'avait que les mécontents, on allait réouvrir. Et en même temps, c'était quand même important d'avoir des éléments Parce que justement, la décision de l'élu, c'était de dire, la réunion publique pour faire le bilan de cette fermeture provisoire, c'était pas de décider ensemble, mais c'était de donner finalement le résultat de l'expérimentation et de décider, mais sans demander aux gens, enfin, avec le sondage préalable, mais pas dans la réunion, de dire on acte la fermeture ou on réouvre. Donc, on a fait un petit sondage. On a profité, il y avait le marché de Noël, je me souviens, etc. Donc, on avait mis des urnes, donc on en a quand même pas mal profité pour toucher pas mal de gens. On allait faire du boitage avec des petits tracts et on a eu quand même 120 réponses, ce qui est relativement correct. Sur les 120 réponses, donc que des riverains, hein, on n'est pas allé très loin, on a fait juste les gens qui étaient touchés par ce switch et le fait qu'on arrête, qu'on coupe la rue en deux. On a eu un peu plus de 80% de oui pour un peu moins de 20% de non. Et avec des non, c'était non, mais bon, éventuellement, quoi. Du coup, voilà, il y en avait qui aidaient, bah, si tout le monde est d'accord, pourquoi pas, et ceux-là, on les a classés dans le non. Donc globalement, on avait quand même une forte majorité qui était OK pour fermer. Donc, on a continué là-dessus et on a fermé l'avenue, sachant que dans ce sondage-là, on a quand même entendu, alors j'ai pas les verbatims, mais on a quand même entendu des gens qui nous disaient on revit quoi. Ça y est, je revois mon quartier comme je l'ai vécu il y a 5, 6 ans. Enfin, vraiment que des côtés positifs. Pour une petite anecdote, je me souviens du soir de la réunion publique, là où on a présenté ce travail, donc pour que l'élu acte le fait d'ouvrir ou de réouvrir ou de continuer de maintenir la fermeture. On a une personne très en colère qui est arrivée pas tout à fait à l'heure et qui nous dit: Ouais, mais qui c'est qui a fait ça? Je comprends pas, mais de quel droit vous faites? Et en fait, on avait un schéma, j'avais fait un schéma avec les réponses oui, non. Je dis: Ben, monsieur, voilà. Et il a regardé, il est reparti la queue basse, quoi. Et sans vouloir faire plus. Je veux dire, à un moment donné, ce qu'on a trouvé intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'en fait, on s'est appuyé sur un travail qui était fait avec les habitants, sur des réponses qui nous ont bien servi quand même après, pour fortifier un peu le truc, et avec quand même des réponses d'usagers, de riverains, qui ont dit, bah ok, quoi, c'est bien, il faut continuer. Voilà. Donc, je ne vais pas aller bien plus loin dans cette action-là. J'avais quand même marqué. Alors. Juste pour vous donner quand même un autre élément qui est important, c'était dans un contexte aussi où les gens avaient envie de réinvestir toujours sur le côté de la tranquillité publique, le parsoulage, et dans le même temps, avec l'impulsion, comme quoi il y a des dispositifs qui quand même sont intéressants, des budgets participatifs, les habitants avaient fait un budget, une demande de budget participatif pour mettre des murs d'escalade sur le parc. Donc c'était un peu dans la même temporalité. Et en fait, malheureusement, ils n'ont pas été élus. Et l'élu, le maire adjoint de l'époque, a dit, ben, on y va quand même. Parce que là, il y a une mobilisation d'habitants très forte et il faut leur donner un signe. Et donc, dans le même temps, il y a eu une création de murs d'escalade. Et une autre chose qui a été très importante, et je pense qui a peut-être aussi aidé à la fuite du point de deal ici, c'est qu'on a ouvert une grande partie du parc Soulages sur l'avenue Jean Perrot. Vous disiez qu'il n'était pas lisible. En fait, il y avait un mur de l'ancienne propriété et on en a coupé une bonne partie, qui fait que maintenant les gens qui peuvent circuler là voient d'une façon plus importante le parc, ce parc-là. Et là encore, les gens nous ont fait un retour très positif, où le parc était réinvesti par des enfants, par des familles, etc. Donc, en synthèse, ce qui me semble important là-dessus, c'est on s'aperçoit que là. Si on travaille sur la préoccupation première des habitants, on a un bon levier. Ça, c'est le premier élément. Avec un petit bémol, c'est que, et je vous l'ai dit là, le problème, c'est que si la préoccupation de ces habitants n'est pas la même, eh ben, on risque, si elle n'est pas du même niveau, on risque d'avoir des problèmes. Et là, sur le coup, on n'a eu qu'une partie des gens qui ont participé à cette démarche. Donc, ça peut quand même poser des questions. Et puis, je pense que ce qui a été bien là aussi, c'est qu'on a pris en compte le mal-vivre des gens, parce qu'on a formalisé une réunion, les élus ont joué le jeu en disant on vous écoute. La police nationale a fait aussi un gros effort. Enfin voilà, il y a eu vraiment une réponse. Et c'est la réactivité, parce que c'est pour ça que je vous parlais de date. C'est en retravaillant pour préparer le truc, je me suis aperçu de ça. Première réunion en mairie le 13 juillet 2017, la dernière réunion 30 janvier 2019 pour dire on acte la fermeture, quoi. Avec tout ce que je vous ai dit comme démarche qui quand même demande un petit temps de maturation, etc. Donc je trouve personnellement que c'est quand même une démarche qui est resserrée dans le temps et qui nous a aidé aussi à ce que les gens ont vu que c'était réactif. Après, ça c'était la saison 2. Maintenant, je donne la parole à Shaoki parce qu'ils sont passés où les dealers?
Je vais vous le dire malheureusement. Bonjour à tous. Merci Serge. Vous m'entendez bien? Oui. Ah, voilà, vous m'entendez mieux là, non? Voilà, donc ben, Serge a expliqué un peu l'environnement. Je vais me présenter en deux mots. Je m'appelle Adrien Chaouki. Je suis responsable d'agence sur le secteur Abbaye Jouhaud, plus particulièrement sur le territoire Paul Coca. Le territoire, il y a deux responsables. On gère à peu près entre 3 500 et 4 000 logements. Moi, je suis sur le secteur Abbaye Jouhaud. Donc, il y a l'Abbaye, il y a Jouhaud juste à côté, la Bajatière qui n'est pas très loin, et après, on a l'avenue Jean Perrot. Mais je vais vous parler plus particulièrement de la cité Bajatière pour avoir quelques chiffres et quelques dates en termes d'historique. Moi, je suis arrivé le 1er janvier 2019 sur ce secteur. Enfin, on a réorganisé les secteurs. Moi, je suis sur Abbaye Jouhaud, pardon, depuis 2016. Mais on a eu en gestion le secteur La Bajatière en 2019. Après, historiquement, juste pour la petite histoire, j'ai travaillé 17 ans à Mistral sur ces problématiques aussi qui sont aussi compliquées, mais c'est une autre planète. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en 2016, il y avait un gros point de deal, enfin, il y avait un point de deal pour moi dur et compliqué à gérer parce qu'on est quand même sur un bâtiment qui date des années 80 avec 160 logements. Ce n'est pas un grand groupe normalement immobilier que Actis a l'habitude de gérer, que ce soit Jouhaud ou ailleurs. En 2016, c'était aux deux chemins du chapitre, on avait un point de deal dur et compliqué là-bas. Comme je vous le disais, en 2019, j'ai pris l'agence. On s'est retrouvé aussi toujours avec ce point de deal, mais sur l'autre rue. Parce qu'en fait, la Bajatière, ça fait une sorte de rectangle avec le parc Soulages. Donc, vous avez la rue du chemin du chapitre et vous avez la rue Ponsard. Et en fait, ils se sont déplacés de l'autre côté. Et ils étaient, malheureusement, parce que moi, ça m'a surpris aussi quand je suis arrivé, il faut savoir qu'au niveau de notre hall d'entrée, au niveau du 10 Ponsard, il y a une crèche juste à côté du parc Soulages. Les dealers étaient aussi là quand les mamans amenaient ou les papas amenaient leurs enfants. Donc pour moi, effectivement, c'est un petit groupe qui est quand même plutôt sympa, qui a été réhabilité quand même fin 2018 avec une grosse réhabilitation thermique. Ils ont refait la façade, ils ont refait l'étanchéité, ils ont réaménagé la dalle qui appartenait, je crois, à la ville de Grenoble. Donc on a privatisé. Donc quand vous arrivez la première fois, vous dites c'est sympa quand même, même très sympa, je trouve, par rapport à mon expérience. Derrière, bah, écoutez, bah, par rapport à nous, à notre vie du quotidien en tant que bailleur social et avec mes collègues, c'est quand même un secteur difficile en termes d'entretien, de dégradation, de vie au quotidien. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est surtout à nos locataires et les habitants aussi en face, hein, en mode copro, mais surtout nos locataires qui habitent et qui vivent là-bas, au-delà de mes collègues qui sont en difficulté parfois, même trop souvent à cause de ces agissements et de ces comportements. On essaie de gérer au mieux les dégradations, d'être réactif, d'inventer des dispositifs. On est toujours en train de se réinventer parce qu'ils vont trop vite sur la structuration, sur les dégradations, sur les travaux. En plus, en parallèle, nous, on est au milieu parce qu'il y a les locataires forcément qui sont mécontents, qui habitent là-bas et qui vivent très mal ce genre de choses. Donc, on a essayé d'innover. D'améliorer le quotidien en fait de nos locataires. Donc sur ce secteur, il avait été avancé un projet de prendre un gardien logé. En fait, chez Actis en général, vous avez donc le territoire, le responsable d'agence, les collègues qui font l'accueil, vous avez des binômes de gestion qui font les travaux, qui louent les logements, et vous avez une forte proximité avec des agents de nettoyage, agents de proximité, agents de secteur. Et là, on a innové, on a pris un gardien logé. C'est-à-dire que sur ce secteur-là, en fait, j'ai recruté, juste pour la petite histoire, c'est un géomètre qui vient de Orléans et qui est venu habiter sur ce secteur. Avant de le recruter, j'ai eu 40 CV. Mais ce n'est pas grave pour les 40 CV parce que lui, il est bon. Voilà. Et en fait, il est là. Donc, il est là avec nous depuis mai 2019. Il est dans une équipe intégrée avec d'autres collègues qui ont le secteur jour. Donc, il habite là-bas. Donc, touche du bois pour l'instant. Il a pas été embêté ni par les dealers, ni par des locataires qui peuvent être virulents parfois. Voilà, ça lui plaît. Donc, en termes de travail et d'entretien, donc il est là-bas. Il fait ses 8 heures. Pour rentrer dans le détail, il nettoie les halls d'entrée le matin. Et l'après-midi, il fait de la veille technique, de l'accompagnement des locataires, traite les réclamations, etc. Donc lui, il habite là-bas tous les soirs, il est là-bas, il a son garage, il a son logement. Et du coup, ça se passe bien pour l'instant. En tout cas, il y a des bons retours. Après, bien sûr, quand on lui a appris, c'est jamais facile, les codes, comment s'intégrer sur le secteur avec ce genre d'individus, pas se mêler des choses. Ben, je le dis tranquillement, mais quand la police arrive, c'est de ne pas trop discuter avec eux parce que ça peut vite le mettre en difficulté. Mais je parle de mon gardien logé, mais je parle de toute l'équipe et moi-même. Voilà, ça peut être compliqué. Je vous parlerai après du travail aussi de la police nationale qui intervient là-dessus. Donc ce dispositif, des retours que j'ai aujourd'hui, les locataires ne le disent pas tous parce qu'ils nous parlent toujours en off, parce qu'ils ont peur des représailles. C'est pour ça que je pense aussi qu'ils ne sont pas venus à la réunion qu'avait organisée Serge. C'est qu'en fait, c'est compliqué. Quand vous habitez là-bas, il peut y avoir des représailles, il peut y avoir plein de choses. Donc c'est très compliqué. Et du coup, les retours qu'on a des locataires, c'est quand même assez positif parce qu'ils n'ont pas le sentiment, c'est peut-être un mot fort que je vais employer, mais d'abandon. Parce qu'à des endroits, parfois ça a été plus compliqué, mais sur cet endroit-là, on se dit oui, ben voilà, Actis, on essaye d'améliorer la qualité au quotidien, de rendre les parties communes propres, d'être réactif, mais vous avez quelqu'un qui habite avec vous. Ce n'est pas Zorro, hein, non plus, mais on essaie de l'accompagner. Et aujourd'hui, ça se passe quand même plutôt bien parce qu'on a des retours assez positifs. C'est vrai que lui, pour employer un mot fort, il galère parce qu'il a dans le nettoyage, il a des taux d'encrassement qui sont anormaux parce qu'il y a du squat, c'est dégradé, etc. Voilà. Pendant
Bien sûr.
3-4... Pardon? C'est bon?
Non.
Non, d'accord. Pendant 3-4 mois, je rentrerai dans les détails. On a une petite accalmie parce que l'équipe a changé en fait. Ils avaient une équipe de dealers qui était en place depuis je ne sais pas combien de temps par rapport à ce que je vous ai dit là, les 3-4 années. Et là, on a une accalmie de 3-4 mois où c'était plutôt calme. Donc les locataires nous l'ont dit tout de suite. Donc c'était plutôt cool pour les équipes et pour tout le monde. Malheureusement, il y a une équipe qui est revenue un peu plus virulente avec d'autres codes. Donc on a dû se réadapter, se réapproprier pour dire qu'on travaillait là-bas, qu'on faisait notre travail. Nous, on fait notre travail, la police fait le sien. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, ils font le leur, mais c'est compliqué. Au-delà du gardien logé, il y avait un autre dispositif aussi qu'on appelle ZEUS, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est un dispositif tranquillité qui intervient chez les bailleurs sociaux, pardon, qui est centralisé par Absis, par le groupe des bailleurs. Et ils essayent de faire respecter sur mon secteur, par exemple, au Cocinus sur l'Abbaye, qui est un autre secteur encore aussi compliqué, et sur la Bajatière, donc c'est un dispositif d'agent, de médiation, qui intervient chez les collègues de Val-d'Isère Habitat, la SDH, etc., qui intervient pour faire respecter le règlement intérieur dans nos parties communes. C'est-à-dire que pour vous donner des faits concrets, ils rentrent dans le hall, ils leur disent, écoutez, vous n'avez rien à faire là, vous gênez les locataires, etc. Donc ça a pété, ça a fait des conflits entre les agents de médiation. Hein. Pour vous donner encore une petite anecdote sur l'Abbaye, ils leur ont crevé 3-4 fois les pneus, ils les ont insultés, je ne vous dirai pas les mots. Et la Bajatière, pareil. Donc il y a eu des frictions, etc. Autour de tout ça, il y a le travail de la police. Donc là-bas, on a la BST. Donc c'est une équipe quand même plus musclée, avec un dispositif un peu plus musclé. Donc moi je dis toujours, ils font des visites de courtoisie dans nos parties communes. Donc ils trouvent très souvent du stupéfiant, même trop souvent. Voilà. Et du coup, c'est aussi, j'ai l'impression, compliqué pour eux aussi, qui doivent faire respecter la sécurité et les environnements autour par rapport à ce cadre de vie et de ce deal. Et en fait, en termes d'impact sur les locataires, donc comme je vous disais, ils habitent là-bas, c'est compliqué. Nous, malheureusement, ça nous fait des départs de locataires, parce que notre but, c'est aussi de louer les logements, commercialisés. En plus, ces logements, ils sont très sympas. Avec la réhabilitation, je trouve que ça a amené beaucoup de plus. Il y a beaucoup de vandalisme, donc on passe trop d'argent à réparer, à se réadapter au niveau de la dégradation. Il faut savoir aussi que sur ce bâtiment de 160 logements, donc vous avez la dalle et en dessous, vous avez des garages. Vous avez au moins 70 garages. Donc quand je suis arrivé à l'époque, je crois qu'il y avait au moins 30 vacants. On a réussi à commercialiser petit à petit, mais les gens, ils sont friands. Ils ont pas envie d'aller louer quand vous êtes au 10 Ponsard et que les jeunes qui dealent se baladent entre les garages, entre le hall d'entrée, à cacher le stup, etc. Donc c'est très compliqué. Donc voilà un peu l'environnement. Et la dernière chose que je voulais dire, au-delà de tous ces dispositifs que je vous ai dit et qu'on essaie de s'accrocher au quotidien, parce que franchement, c'est usant, fatigant. Et franchement, mes collègues, je ne parle même pas de moi, mais mes collègues ont beaucoup, de mon équipe a beaucoup de mérite, et l'ensemble des bailleurs et des collègues, de travailler sur ces secteurs qui sont difficiles, parce que nous, on est en première ligne. Alors, ils sont dans nos parties communes. Et les premiers confrontés, c'est aussi les locataires. Après, il y a tout ce maillage avec la ville de Grenoble, avec les différentes communes, avec la police, les partenaires. Et on essaie d'avancer ensemble, comme l'a dit la dame au départ. Voilà ce que j'ai à dire enfin, au niveau témoignage. Et une dernière chose que je trouve plutôt sympa, ou comme je dis, on ne lâche pas l'affaire, c'est que au sein d'Actis, vous avez des agents de développement, d'ailleurs même sur la ville. Et notre collègue enfin, qui s'appelle Julie, qui fait un travail, je trouve, exceptionnel sur ses animations, ses activités. Elle est en lien aussi avec les collègues de la ville pour voir que les locataires, même s'il y a ce point de deal en bas, même si c'est compliqué, qu'on puisse faire des activités avec les enfants, avec les locataires, se réapproprier la dalle qu'on a privatisée, parce qu'elle est immense, et trouver des thématiques autour de ça. Donc, en fait, on vit avec eux, les locataires vivent avec eux, les partenaires vivent avec eux, et du coup, voilà. Voilà, voilà tout.